Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, on peut se poser la question, pourquoi parler des frontières à Die? C'est vrai qu'on est ici dans un pays de moyenne montagne, les frontières telles qu'on les connaît, c'est-à-dire frontière italienne, c'est la plus proche, sont quand même à quelques kilomètres, enfin à quelques centaines de kilomètres. Pourquoi donc parler des frontières ici? Un petit rappel là encore, Die est une ville romaine, jusque-là pas trop de soucis, une ville romaine qui est ceinturée par un rempart. Et un rempart, déjà, c'est un mur, une barrière, une frontière entre l'intérieur de la ville et l'extérieur de la ville. Donc déjà un petit point commun, pas trop tiré par les cheveux. Dans ce rempart, il y a des portes. Les portes sont les points de passage obligés. C'est vrai que quand on se représente une frontière, on voit soit des grillages et des barbelés, soit des postes de douane avec des petites barrières qui se relèvent. Les portes jouent à peu près ce rôle-là aussi. Faut imaginer qu'à Die, l'octroi fonctionne jusqu'aux alentours de 1804-1810, ce qui veut dire qu'on ferme les portes tous les soirs jusqu'au début du 19e siècle. On est quand même dans un cadre de frontière aussi, entre intérieur et extérieur. Bon, la porte romaine restituée en passant. Vu d'un petit peu haut, on s'aperçoit que Die est environnée de quelques barrières supplémentaires, des montagnes. Montagnes qui sont souvent ressenties comme des frontières. On parle souvent de frontières naturelles et on met dans ce lot-là notamment les Alpes et les Pyrénées parce que c'est vrai que c'est des barrières qui, à défaut d'être infranchissables, posent toujours quelques difficultés, notamment pour tout ce qui est charrois, charrettes, etc. Parce qu'il faut monter et redescendre. Et des montagnes séparées, au travers desquelles on peut passer par des cols ou des cluses. Ici, celle de Ponté, avant la construction du pont de la SNCF, qui sont, comme les portes dans le rempart, les points de passage obligés et les points où, en général, on va trouver soit un péage, soit un château médiéval, c'est le cas ici, pour en commander l'accès. Die, c'est, en tant que ville romaine, le chef-lieu d'une cité, celle des Vaucances, avec là aussi des frontières, évidemment. Des frontières qui sont extrêmement mal connues et qui, en plus, pour simplifier, sont mouvantes. Donc je vais m'arrêter deux petites secondes là-dessus. Donc on reconnaît ici Die, Luc, Vaison-la-Romaine, et puis j'ai rajouté Gap et Sisteron. À l'heure actuelle, on peut considérer que cette grande cité du 1er siècle avant Jésus-Christ, issue de l'organisation après la conquête romaine, va petit à petit se scinder en quatre parties distinctes. Gap, dont on ne sait pas très bien à quel moment ça se détache. Sisteron, qui se détache probablement dans le courant du IIe siècle. Vaison, qui se détache aussi de la cité des Vaucances, mais plutôt vers le IIe, IIIe. Et ensuite, le secteur de Die et Luc, qui reste seul à conserver le nom de Vaucances, à partir de la fin du IIIe siècle, de toute façon. Avec ici... Alors déjà, vous remarquerez que les frontières sont indiquées en pointillés, parce qu'on n'est pas absolument sûr des tracés, et en plus, là, c'est même plus des pointillés, c'est carrément des points d'interrogation, pour tenir compte du trièvre, dont on ne sait absolument pas à qui il appartient, passé un certain moment. Donc, frontières qui sont pas très bien connues, et qui en plus sont évolutives. Là, on voit déjà une cité qui se scinde en quatre parties différentes, et ensuite, au Moyen-Âge, les choses vont encore se compliquer. Je ne vous ai pas mis de carte parce qu'il faudra en faire une bonne trentaine, au moins, pour suivre l'évolution jusqu'à la création des départements. Sachez simplement qu'ici, sur ce point frontière, on va avoir l'apparition du château de Cré, et qui va jouer un grand rôle dans les petits problèmes entre les évêques de Die et les comtes de Diouet et Valentinois notamment. Pardon, mais je ne rentrerai pas dans le détail maintenant. Et dernier rapport avec les frontières, les Vaucances, pendant l'Antiquité, en tout cas dans les deux premiers siècles de notre ère, semblent astreints à fournir à l'armée romaine une aile de cavalerie qui va être rapidement séparée en deux. Une première partie qui sera cantonnée en Angleterre et en Allemagne sur le limès rhénan, dont on entendra parler tout à l'heure, et une autre partie qui sera cantonnée plutôt sur les frontières syriennes et dans le sud égyptien. Donc là encore, on voit que la cité des Vaucances, la ville de Die, fournit des contingents militaires pour garder les frontières extérieures de l'Empire. Et pour résumer, on s'aperçoit que finalement, cette ville de Die, qui est loin de toutes les frontières, bah, en contient quand même, en réel ou en supposé, un certain nombre. Donc il y avait un rapport direct, finalement, entre Die et les frontières, ce qui permet, dans toute logique, de replacer ce colloque dans un contexte plus local. On va rentrer peut-être plus dans le vif du sujet en abandonnant la problématique locale, en proposant quelques pistes de réflexion sur ce qu'est une frontière. Donc une frontière, c'est pas seulement un trait sur une carte, ça peut être beaucoup d'autres choses. En fait, un bon exemple d'une frontière, c'est la bulle. La bulle qui est quelque chose de très ténu, mais qui, enfin presque abstrait, qui va séparer par contre un contenant et un extérieur et un intérieur. Et c'est vrai qu'on peut continuer à filer la métaphore. De cette bulle, on va passer à la cellule. La cellule qui non seulement définit un intérieur et un extérieur avec une membrane, mais qui en prime a l'avantage de définir aussi une identité. L'ADN, c'est déjà une identité. Et on commence à voir apparaître ce concept de frontière. De la cellule, on va passer aux organismes multicellulaires, qui en général sont recouverts de peau. C'est assez pratique justement pour protéger des agressions de l'extérieur, mais aussi pour organiser les échanges avec l'extérieur. Ça nous arrive à tous, à un moment ou un autre, de transpirer, ce qui organise justement des échanges avec l'extérieur, qui nous permet aussi d'assurer notre propre thermorégulation. Donc une frontière qu'on commence à apercevoir comme étant à la fois quelque chose de tout à fait tangible et en même temps quelque chose de tout à fait perméable. Autre type de frontière, c'est la maison, c'est-à-dire ce qui va définir le dedans chez moi et le dehors ailleurs chez les autres. Enfin, chez les autres, c'est toujours embêtant. Mais en tout cas, ailleurs, oui. La famille, qui peut être considérée aussi comme un groupe, une identité plurielle, mais qui définit là encore une frontière entre nous et eux. D'autres groupes sociaux. Je ne vais pas tous vous les passer en revue parce que ça sera un petit peu long. Donc j'ai pris des photos, pas tout à fait au hasard, mais voilà. Et puis on peut définir aussi d'autres types de frontières, mais qu'on n'abordera pas hein, dans le cadre de ce colloque. Voilà. Et pour en arriver à la représentation habituelle de la frontière, c'est-à-dire quelque chose d'assez moche, mais qui en même temps sur cette photo n'est pas inintéressant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a à la fois un problème d'interdiction de passage, et en même temps tout au fond ici, enfin je sais pas si on le voit bien là, ouais. On devine un tunnel, ce qui veut dire que il y a en même temps la protection d'un passage, mais en même temps la mise en place d'un passage, et on est dans ce paradoxe d'imperméabilité et de perméabilité. La frontière définit aussi. Oui, elle définit, enfin, elle est la marque d'un pouvoir, c'est-à-dire que la frontière est souvent la limite du rayon d'action du pouvoir central. Bon, là, une illustration antique, désolé, je travaille beaucoup avec l'Antiquité, mais on pourrait en trouver plein d'autres. En définissant des limites d'un pouvoir, ça définit en même temps évidemment des limites d'un territoire, des limites géographiques. Et ça marque une prise de possession de ce territoire. Et de ce point de vue-là encore, on est dans un rapport à l'autre, entre moi, nous, on va dire l'endogène, et lui, eux, l'exogène. Alors, ce rapport peut être en mode défensif. Donc là, petites illustrations du limès romain et de la Grande Muraille de Chine, qui sont quand même deux exemples assez démonstratifs de ce type de relation. Ça peut être aussi quelque chose d'un peu plus offensif. 1939, c'est la frontière. C'est laquelle? C'est la Belge, celle-là, je crois. Enfin bon, peu importe. On voit à peu près à quoi ça fait référence. Et en même temps, comme on le voyait tout à l'heure, c'est aussi un lieu privilégié d'échange. Alors d'échange ici épistolaire, c'est-à-dire qu'on peut échanger du langage, de la culture, on peut échanger énormément de choses. On peut échanger aussi économiquement. C'est d'ailleurs amusant, pour faire un petit retour là-dessus, que le symbole du libre-échange à l'heure actuelle, porte un nom pareil, c'est-à-dire la rue du Mur, c'est l'endroit où passait le rempart initial de New York. Et on se retrouve là aussi dans ce paradoxe de la frontière, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement ouvert sur un lieu qui était censé être extrêmement fermé. Et puis, c'est vrai que les échanges peuvent aussi nous conduire à revenir sur un mode un peu plus offensif, chose qui arrive, enfin bon. Et dernière petite chose, parce que c'est important de s'en souvenir, la frontière, c'est pas quelque chose de figé. Là, on est en 843, c'est vrai que c'est un petit peu loin, mais c'est un bel exemple pour montrer que les frontières sont mobiles, même si on l'oublie un petit peu, les frontières continuent à être mobiles, de moins en moins autour de nous, et encore, les choses changent pas mal, et toujours autant quand on s'éloigne un petit peu de nos centres de préoccupation. Ce qui amène évidemment à se poser la question, quel est l'avenir des frontières dans le monde? Mais je vous rassure tout de suite, on va se limiter quand même dans le cadre de ces rencontres à se poser un certain nombre de questions sur les frontières en Europe. Voilà.